Говорит Москва.
Je crois aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie.
There is no alternative.
Désastre, alignement des astres.
À ta place, en façon, Hezbollah à tous.
Time will tell.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier. C'était le lendemain des élections européennes du 26 mai. Étonnant calendrier, le lendemain des européennes, qu'on apprenait que la Commission de Bruxelles envisageait d'ouvrir contre l'Italie une procédure pour déficit excessif. Menace depuis abandonnée, certes à la faveur d'un compromis avec Rome, comme ça avait été déjà le cas l'automne dernier, mais un compromis qui n'empêche pas les relations entre Rome et Bruxelles d'être toujours aussi tendues sur les questions économiques, dans une ambiance d'euroscepticisme croissant chez nos voisins transalpins. Et au cœur de cette bagarre, un dispositif qui devrait être mis en place prochainement par la coalition populiste au pouvoir, à savoir les mini-bots, ces bons du trésor italien que certains décrivent déjà comme quelque chose qui pourrait devenir une potentielle monnaie parallèle à l'euro. Alors, à quel point ces titres de dette ressembleront ou pas à une véritable monnaie? L'Italie serait-elle en train de se préparer à carrément sortir de l'euro sans le dire? Ou bien ne s'agit-il que d'un levier de négociation visant à mettre la pression sur Bruxelles? Benvenuto, vous écoutez Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir.
Bonjour Clément.
Et avec nous aujourd'hui, Maxime Isoulet, bonjour.
Bonjour.
Docteur en économie à l'EHUSS, vous travaillez sur les questions monétaires, ce qui vous a amené à vous pencher de près sur l'originalité de ce cas italien. Bienvenue à vous, on vous retrouve dans un instant. Je vous propose d'abord l'édito de Jacques Sapir. Et le buzz, comme on dit, autour de l'annonce en juin de ces mini-bots est un peu passé, mais il reste pourtant au cœur des relations tumultueuses entre Rome et Bruxelles, n'est-ce pas?
Et oui. Et on en a beaucoup parlé, effectivement, à l'époque. Alors on en parle effectivement un petit peu moins aujourd'hui, et pourtant, pour le gouvernement italien, il est clair que la question reste d'actualité. Laquelle? Eh bien, celle de ces mini-bons ordinaires du Trésor, pour donner leur nom complet, ce que l'on appelle évidemment les mini-bots.
Et oui, il faut peut-être d'abord nous rappeler de quoi il s'agit. Mini-bots, B-O-T, bots, rien à voir avec les fameux bots russes que moi et mes collègues, vous savez, sommes censés opérer pour manipuler les esprits.
Oui, tout à fait. Alors, rappelons le commencement de cette histoire. Le gouvernement italien, étranglé par les volontés de la Commission européenne, mais aussi étranglé par l'euro, devant faire face à une situation économique qui est aujourd'hui profondément dégradée, envisage de titriser, le vilain mot, qui couvre, il faut bien le dire, une pratique assez classique en finance depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, envisage de titriser l'argent qu'il doit aux entreprises, plusieurs dizaines de milliards d'euros impayés sur différents contrats publics. Jusque-là, pas de problème. Seulement, le gouvernement veut émettre, pour ce faire, des titres sous la forme de mini-bons ordinaires du Trésor. Quand on dit mini-bons ordinaires du Trésor, il est envisagé d'en faire pour des valeurs faciales de 200 euros, ça va encore, de 100 euros, ça commence à devenir un peu plus étrange, 50, 20 et 50.
Et là, c'est très mini,
oui. Oui, et là, on se dit, qu'est-ce que c'est? Alors, effectivement, le gouvernement veut donc émettre ces titres et permettre aux entreprises de payer leurs impôts et leurs charges avec ces mêmes titres.
Et voilà, c'est l'Access Corse, Jacques Sapir.
Oui, tout à fait. Préfecture Ajaccio, comme aurait dit Pierre Dac, voté à l'unanimité au Parlement italien il y a de cela déjà quelques mois. La résolution, qui n'est pas encore une loi, il faut le préciser, sur ces mini-bots, a rapidement suscité des inquiétudes. Et s'il s'agissait d'une méthode pour le gouvernement italien afin de créer une monnaie parallèle. Par ailleurs, le projet des mini-bons, tel qu'il est retenu, ressemble furieusement à des billets. Et quand on a vu les premières planches qui étaient faites, on pouvait effectivement s'y tromper, les maquettes des planches. Donc, si l'objectif visé n'était pas simplement une compensation fiscale entre un payé de l'État et un payé des entreprises, mais donc bien de servir à sortir en douceur de l'euro.
Et voilà, une hypothèse qui évidemment ne ferait pas que des heureux.
Effectivement. Madame Christine Lagarde, alors présidente du Fonds monétaire international, s'en était à l'époque inquiétée. Le débat s'est d'ailleurs politisé en Italie. Les députés du Parti démocrate, qui est aujourd'hui dans l'opposition, et qui avaient voté d'ailleurs pour cette résolution, puisque cette fameuse résolution avait été votée à l'unanimité, ont pris leur distance après par rapport à cela. Et puis, l'actualité tournant, on a un peu oublié cette question. Pourtant, le président de la commission au bilan de l'Assemblée nationale italienne, l'équivalent de notre prestigieuse commission aux finances, M. Claudio Borghi, a indiqué que les mini-bots seraient intégrés dans la prochaine loi de finances qui sera présentée au Parlement à la fin du mois de septembre. De fait, l'Union européenne hésite à engager contre l'Italie une procédure pour déficit excessif. Et de son côté, le gouvernement italien a lui aussi réduit certains de ses objectifs. Un compromis semble pouvoir émerger après la menace d'un bras de fer entre le gouvernement et la Commission. Les mini-bots font-ils donc partie du passé ou sont-ils toujours un instrument dans la négociation ?
C'est bien tout l'enjeu, Jacques Sapir, alors que les prochains mois pourraient être déterminants, évidemment.
Effectivement. De fait, on a surtout décidé à Bruxelles de ne pas décider. Les nouvelles têtes de la Commission, du Conseil européen, tardent d'ailleurs à se mettre en place. Christine Lagarde a été pressentie pour occuper le poste de Draghi à la Banque centrale européenne, mais elle n'est pas encore en fonction. Dans ce contexte, tout le monde semble donc avoir décidé d'attendre. Seulement, pour combien de temps ? De fait, nous devrions avoir la réponse avec la loi de finances, et avec les fuites habituelles qui accompagneront sa présentation. Mais il est clair aujourd'hui que l'Italie reste une bombe, que ce soit pour l'Union européenne ou pour la zone euro. Une bombe à mèche lente, assurément, mais une bombe quand même.
Une bombe quand même. Jacques, précisons simplement que nous enregistrons cette émission alors que le vote du Parlement européen sur la nomination de Christine Lagarde n'a pas encore eu lieu. Vous nous regardez peut-être une fois que ce sera le cas. Pour autant, Maxime Isoulet, avant de s'engager dans cette conversation sur les mini-bots à proprement parler, il faut peut-être qu'on fasse un point sur la situation économique en Italie et son lien avec la situation politique, évidemment.
Oui, bien sûr. Alors donc l'Italie est dans une situation économique difficile depuis de nombreuses années. Cette situation a débouché sur l'élection donc d'un gouvernement de coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, anciennement Ligue du Nord, mais qui a eu des transformations idéologiques assez profondes. Et donc ce gouvernement est maintenant aux manettes en Italie et est assez bien en fait implanté dans la population, puisqu'on a vu aux dernières élections européennes qu'il était soutenu par la population, bien que le rapport de force ait largement changé entre les deux parties de la coalition.
Effectivement, quoi qu'on pense de ce gouvernement, il faut bien dire qu'il est, oui, il a une majorité nette. Ouais.
Alors, voilà. Le rapport de force s'est inversé.
Oui, tout à fait. Donc, on avait effectivement au départ le M5S qui a été élu autour de 30% des voix, avec la Ligue qui a été autour de 17% des voix, alors qu'aujourd'hui, aux élections européennes, qui n'ont pas d'impact évidemment sur le Parlement italien, mais on a vu une inversion du rapport de force, la Ligue était à plus de 30% et le mouvement 5 étoiles, lui, est tombé à 17-18%. Donc en fait, c'est une situation paradoxale évidemment, puisque en fait au Parlement, on a l'ancienne situation politique, celle qui datait des élections générales, et aujourd'hui, on sait que les électeurs privilégient la Ligue. Mais pourtant, il y a toujours un nombre supérieur de députés du M5S qui sont représentés au Parlement, donc cette situation joue beaucoup, puisque évidemment, la Ligue a plus d'influence que son nombre de députés ne pourrait le laisser penser. Et la Ligue, dans cette coalition, est celle qui est le plus offensive sur la question.
Et on a pu dire qu'elle avait même un peu phagocyté ce gouvernement.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, c'est une alliance, avec toutes les conséquences d'une alliance politique. Donc, il y a à la fois un jeu, un intérêt commun entre ces deux parties, et évidemment des divergences et une lutte pour le pouvoir.
Quel rapport avec l'économie, la situation difficile de l'Italie ?
Le rapport, c'est que les deux partis sont élus quand même sur des difficultés sociales. Pour schématiser, le M5S est plutôt majoritaire dans le sud de l'Italie et la Ligue dans le nord de l'Italie.
Souviens de cette carte complètement coupée en deux.
Voilà, tout à fait. C'est que l'Italie est un pays qui est très divisé historiquement entre son sud, son midi et le nord, qui est plus industriel. Mais les deux, en fait, sont touchés par des difficultés économiques, que ce soit le Nord avec une économie très industrielle, mais où le taux de chômage augmente, où les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, sont en grande difficulté, et que ce soit le Sud, bien sûr, qui est touché de façon plus ancienne, mais de façon très importante, par le chômage des jeunes, et par tout un tas de problématiques qui ont trait à la situation sociale.
Pourquoi cette conflictualité sur la question de l'euro ?
Alors, conflictualité entre les deux parties, vous voulez dire ou...
De façon générale, pourquoi cette question de l'euro se pose de façon très forte en Italie ?
Ben, pour des raisons objectives, parce que l'euro est maintenant un élément objectif des difficultés que rencontre l'Italie au plan économique. Elle empêche un ajustement de sa monnaie qui permettrait de relancer sa compétitivité, qui permet sans faire de baisse de salaire. L'euro est un système de gouvernement qui empêche l'Italie de prendre des mesures d'investissement, notamment d'investissement public. Et on sait très bien que tout ça est en fait empêché de fait par le contrôle de la Banque Centrale Européenne sur la monnaie en Italie.
Et puis une dette publique particulièrement élevée, Jacques Sapir, qui est au-dessus des 130%,
oui,
de plus de 2300 milliards.
Oui, tout à fait, c'est de l'ordre de 133%. Alors, il faut quand même dire, là, sur la question de la dette publique, que cette dette publique n'augmente pas depuis ces dernières années. Mmh. En réalité, la dette publique, elle a atteint ce niveau extrêmement élevé il y a à peu près 10 ans. Et depuis, les différents gouvernements, à commencer d'ailleurs par le gouvernement de Silvio Berlusconi, ont fait des efforts tout à fait importants, d'ailleurs des efforts qui coûtent cher à la population, en particulier le fait que, il faut le savoir, le budget italien dégage ce qu'on appelle un excédent primaire,
oui.
Ce qui n'est pas le cas en France, hein, si vous voulez, ça fait...
Ça nous rappeler ce que c'est qu'un excédent primaire.
Ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est le résultat du budget quand on ne tient pas compte des intérêts de la dette. Autrement dit, hors les intérêts de la dette, il n'y a pas de déficit du budget italien. Le budget italien est même en excédent. Maintenant, effectivement, en raison de cette énorme dette, hein, de plus de 130%, cette dette pèse sur le déficit et c'est quelque chose d'extrêmement important, même si aujourd'hui, la détente des taux d'intérêt a aussi touché l'Italie. Le bon du Trésor à 2 ans a été pratiquement à zéro. Le bon du Trésor à 20 ans, qui est l'un des plus, je dirais, un de ceux qui ont la maturité la plus forte, il est autour de 2%. Donc, on sent bien que il y a une détente des taux d'intérêt, ça facilite la vie au gouvernement italien, mais d'une certaine manière, il y a toujours ce poids du passé. Et d'ailleurs, c'était l'une des revendications vis-à-vis de l'Union européenne, de ce gouvernement de coalition, qui disait il faut effacer une partie de la dette. Il faut effacer une partie de la dette. Ça allait de 30% à la moitié. Et effectivement, s'il y avait cet effacement de dette, eh bien, on verrait que la situation financière et fiscale de l'Italie se situe, je dirais, plus proche de l'Allemagne que de la France.
Maxime Isoulet,
oui. Oui, non, tout à fait. Ces observations sont tout à fait exactes. Et donc, évidemment, la situation politique s'en ressent. Alors après, il y a toute une négociation entre le gouvernement italien et les institutions européennes qui s'est mise en place. On peut dire qu'en large partie, c'est une partie d'échec, en fait, entre le gouvernement italien et la Commission européenne, représentée par Pierre Moscovici, pour la négociation du budget italien.
Mmh.
Donc, c'est délicat, parce qu'il y a eu une crise très aiguë au moment de la formation du gouvernement pour la nomination du ministre des Finances, parce que le gouvernement de coalition voulait vraisemblablement nommer à la tête du ministère des Finances un ministre qui soit anti-euro, et la Commission européenne et le président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui est opposé en fin de compte au gouvernement, s'y sont opposés à la nomination de ce ministre. Donc aujourd'hui c'est Giovanni Tria qui est nommé, qui est un ancien proche de Silvio Berlusconi, qui, bien qu'étant assez critique sur l'euro, demeure un défenseur de l'euro. C'est lui qui négocie au nom du gouvernement auprès de la Commission européenne. Mais lui-même, en interne, doit négocier le budget de l'Italie avec les représentants du Parlement, que sont pour le Sénat Alberto Bagnai, qui est un économiste extrêmement critique vis-à-vis de l'euro, et Claudio Borghi à la Chambre des députés, qui lui aussi est un économiste anti-euro. Donc en interne, il doit négocier le budget d'Italie avec des économistes qui sont très critiques vis-à-vis des institutions européennes, et à l'extérieur, il prend la pression de la Commission européenne par la voix de Pierre Moscovici, pour mener des mesures d'austérité et bien entendu rester dans l'euro.
Oui, on a l'impression qu'il y a un peu un jeu du chat et de la souris entre Bruxelles et Rome en ce moment. Menace de procédure de sanctions, puis compromis à chaque fois, ça se passe un peu pareil.
Tout à fait. Et c'est une partie d'échec où on peut avoir plusieurs fronts en fait qui sont ouverts. Et c'est dans cette situation générale que la question des mini-bottes a été lancée, comme l'ouverture d'une ligne de front par le gouvernement italien pour faire pression fondamentalement sur Bruxelles.
Oui, absolument, on va y venir dans un instant. Peut-être qu'il faut rappeler ce que risque l'Italie dans ses procédures de sanctions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait peser comme menace ?
Alors, sur le papier, ce que risque l'Italie, c'est une amende qui peut monter jusqu'à 0,5% de son PIB. Maintenant, il faut jamais oublier...
Pour des raisons économiques, c'est-à-dire que c'est plus important que ce que risquent la Pologne ou la Hongrie pour des questions de droits de l'homme.
Absolument.
C'est quand même un point très important
dans le
fonctionnement des institutions européennes.
Ouais. Tout à fait. La Hongrie et la Pologne ne risquent, je dirais, qu'une suspension de leur droit de vote, mais ne risquent pas une amende.
Alors que ça touche des questions de droits fondamentaux.
Tout à fait. Alors que là, pour des questions budgétaires, qui en réalité relèvent de la souveraineté du Parlement national, il y a bien une amende qui est prévue. Maintenant, il faut aussi rappeler une chose, c'est que depuis que la Grande-Bretagne est partie, l'Italie est avec la France et l'Allemagne l'un des rares pays qui soit un donateur net au budget de l'Union européenne. Et ça, c'est extrêmement important, parce que on peut penser que le gouvernement italien, si jamais il devait faire face à une amende, pourrait très bien dire à l'Union européenne, eh bien cette amende, vous la prendrez sur l'argent que l'on vous donne, mais nous déduirons le montant de l'amende de l'argent que l'on veut vous donner. Bon, donc il y a toujours cette possibilité, et on voit bien que, d'une certaine manière, que ce soit l'Union européenne ou que ce soit le gouvernement italien, tout le monde garde des choses dans sa manche. On n'est pas allé jusqu'au bout, on n'est pas dans une crise encore véritablement ouverte, on est en réalité dans ce qu'on appelle, et je suis tout à fait d'accord sur la métaphore du jeu d'échecs, dans les phases d'ouverture. Vous savez, quand on fait bouger les pions, quand on fait bouger le premier cavalier, bon, on teste un petit peu l'adversaire, on regarde comment il réagit, mais on n'a pas encore réellement engagé le combat. Là où le gouvernement italien est un petit peu pris à la gorge, c'est que l'Italie est aujourd'hui techniquement en récession. C'est-à-dire que ça fait plus de 3 trimestres que le PIB italien a décru. Alors, pas beaucoup décru, mais de fait, l'Italie est en récession. Or, le gouvernement italien a véritablement besoin de retrouver des marges de manœuvre pour pouvoir relancer l'économie. Et c'est ça qui, en un sens, va, je pense, durcir la négociation, parce que ce que peut dire le gouvernement italien, c'est peut-être, eh bien, vous nous imposez des règles budgétaires, bon, on va négocier, mais nous, en contrepartie, on pourrait lancer ces fameux mini-bottes, parce que c'est, au moins au départ, ce qu'on appelle une forme de compensation fiscale.
Effectivement, Maxime Isoulet, je vous ai interrompu, je vous laisse reprendre sur qu'est-ce que c'est exactement que ces mini-bottes.
Oui, alors les mini-bottes qui ont été initiées justement par Claudio Borghi, qui est président de la commission de finances de la Chambre des députés.
Il faut signaler tout de suite que les mini-bottes figurent déjà dans le programme électoral de la Ligue de 2017.
Tout à fait.
2017-2018, quand ils font leur programme en vue des élections générales de 2018, ils font figurer cette question des mini-bottes.
Maxime Isiolo.
Oui, et donc, bon, donc ça consiste initialement, effectivement, à lancer les retards de paiement italiens, et qui sont donc en fait des créances des différents acteurs sur l'État italien, eh bien, à leur donner.
De l'argent que doit l'État italien à des entreprises.
Voilà, exactement. Voilà.
Donc, et c'est en fait, pour à peu près 3% du PIB.
Voilà, ça représente 3% du PIB. Et ce que propose donc le gouvernement, enfin, ce que propose l'Assemblée, c'est de lancer des reconnaissances de dettes de l'État italien sous forme de billets pour payer ces retards de paiement. Donc ça consisterait en fait en des créances de l'extérieur sur l'État italien qui se mettraient à circuler du fait que ces créances seraient acceptées en paiement des impôts de ces mêmes entreprises, puisque de leur côté, elles ont bien souvent des retards d'impôts sur l'État italien.
Une première phase serait de les faire circuler sans billets, sans... Pas
non,
physiquement,
si
je me trompe, corrigez-moi.
Le but serait, si vous me corrigerez si je me trompe, mais d'émettre des billets qui correspondraient à ces dettes de l'État italien.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'émettre donc ces mini-bons ordinaires du Trésor sous la forme de bons du Trésor, mais je dirais fiduciaires.
Oui.
Pas scripturaux, donc voilà. Il ne s'agit pas du tout d'un jeu d'écriture au niveau des banques, et de permettre évidemment aux entreprises de payer leurs impôts, de payer aussi une partie des charges sociales avec, et évidemment on se dit, mais puisque ça va devenir un petit peu des bons du Trésor fiduciaires, ce que sont d'ailleurs tous les bons du Trésor, qui a déjà vu, par exemple en France, un bon du Trésor, c'est que c'est un morceau de papier où il y a marqué « bon du Trésor à l'égard de monsieur un tel » ou « à l'égard de la banque un tel », bon, etc. Bon. Là, le problème, évidemment, c'est que ces mini-bons du Trésor, on peut les confondre avec des billets. Hein. Ils ont exactement le même aspect et la même taille.
Il y a peut-être même un petit aspect de provocation dans la présentation qui a été faite. Vous savez, certains ont l'effigie, notamment de l'industriel des années 50, Enrico Mattei, symboliquement, c'est pas anodin. Et un autre qui m'a frappé, c'est avec la photo de Marco Tardelli, qui est un footballeur.
Oui.
Alors là, Jacques, attention, les connaisseurs se souviennent que c'est lui qui marque en finale du Mondial 80. Qui avait été gagné par l'Italie, mais contre qui ? Contre l'Allemagne.
Oui, tout à
tiens,
fait.
Tiens, voilà.
Tout à fait.
Petite
tout à
provocation,
fait.
Donc, peut-être.
Donc, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup d'intelligence politique et beaucoup aussi de symboles et de dire, attendez, nous, on a une histoire et on la connaît, même si vous, les Tudesques, dans vos vastes forêts, vous ne la connaissez pas.
Une espèce de sémiotique, alors que les billets de l'euro, effectivement, représentent des ponts qui n'existent pas et qui vont de nulle part à nulle part.
Voilà. Bon. Donc, il y a cette idée. Le problème, c'est que dès que ces bons, dès qu'ils seraient émis et dès qu'ils commenceraient à circuler, entre une entreprise et l'État, hein, puisque l'État paye ce qu'il doit à une entreprise et l'entreprise peut payer ses impôts avec. Mais le problème va se poser immédiatement, c'est que une entreprise peut avoir une dette de l'État qui est supérieure aux impôts qu'elle doit payer. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire des mini-bottes supplémentaires qu'elle aura bon, par exemple, on admet, une entreprise... Enfin, l'État doit 50 millions d'euros à une entreprise, et cette entreprise a des impôts à payer dans l'année qui sont de l'ordre de 15 millions d'euros. Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, bien sûr, elle peut les garder pour payer les années prochaines, mais elle peut aussi se dire, eh bien, ces mini-bottes, je vais les vendre à une entreprise qui, elle, se trouve ne pas avoir une créance sur l'État, c'est-à-dire que l'État ne lui doit rien, mais elle a toujours des impôts à payer. Sauf que si on fait ça, il faut bien que le mini-bot soit accepté en échange d'un certain nombre de biens ou de services qui soient fournis par l'entreprise. Et donc on voit que d'une simple circulation verticale, c'est-à-dire de l'État vers l'entreprise, puis quelques mois après, de l'entreprise vers l'État, peut se substituer une circulation, cette fois-ci horizontale, entre les entreprises. Bien sûr, les mini-bots sont appelés, à la fin des fins, à revenir vers l'État, mais entre-temps, ils auront circulé entre les entreprises. Et moi, je pense que c'est ça qui inquiète beaucoup Mme Christine Lagarde et puis tous les gens qui sont évidemment opposés à ce système.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier. Autrement dit, ça commence farouchement à ressembler à de la monnaie, voire de la création monétaire officieuse, puisqu'il faut quand même... Alors là, je fais le petit moment pour les nuls, pour nos auditeurs qui ne le sont pas. À notre époque, on ne mesure plus la valeur des pièces par leur poids en métal, évidemment. Une monnaie, qu'est-ce que c'est qu'un billet de 10 euros qui n'a pas de valeur en soi? C'est une reconnaissance de dette qui est généralisée, qui est reconnue par tous. Pour autant, Maxime Izoulay, ces mini-bots, c'est une monnaie fiscale et pas bancaire.
Oui, alors ce qui est intéressant dans le cas que vous évoquez, c'est que il ne s'agit pas d'une monnaie officielle, puisqu'elle n'est pas reconnue comme telle par aucune institution. En revanche, elle fonctionne exactement comme une monnaie. Alors ça pose évidemment une question très intéressante dans le cadre de l'affrontement qui pourrait y avoir entre le gouvernement italien et les institutions européennes. C'est que le gouvernement italien pourrait faire circuler cette monnaie qui donc en revêtirait toutes les caractéristiques, tout en disant « ça n'est pas une monnaie, vous ne pouvez pas nous dire que nous menons une action illégale ». Alors évidemment, il y aurait certainement une controverse juridique liée à ça, etc. Mais enfin, il y a quand même cette possibilité qui est ouverte grâce aux mini-bots pour le gouvernement italien, et c'est aussi pour ça qu'ils y réfléchissent.
Mais pour que ce soit une véritable monnaie, il faut qu'elle soit, qu'on n'ait pas le droit de la refuser. C'est ça le principe, c'est qu'on impose l'usage d'une monnaie. De nouveau, un instant pour les nuls, si vous arrivez avec un sac de pièces de 2 centimes au supermarché, ça va embêter le caissier ou la caissière, mais il n'a pas le droit de vous le refuser. Là, ce serait le cas. Donc, est-ce que ça ne fait pas de ça peut-être un gadget,
alors,
finalement?
Dans le cas dont on parle des mini-bots, ce ne serait pas tout à fait le cas, puisque la seule chose qui serait mise en place au départ, c'est qu'elle serait acceptée pour le paiement des impôts. Et c'est ça qui lui donnerait un caractère qui ressemblerait à une monnaie, puisqu'il se mettrait à circuler, puisque les agents savent qu'ils pourraient l'utiliser pour payer leurs impôts. C'est vraiment ça la clé. Maintenant, une monnaie officielle, effectivement, comme vous le dites, c'est la reconnaissance en fait de ce qu'on appelle le pouvoir libératoire, qui doit être reconnu par l'État. Seul l'État ou une banque, une autorité monétaire peut le faire. Et ça, dans un premier temps, ça n'aurait pas lieu pour le mini-bot. Toute la question est là. Mais on peut aussi imaginer, s'il se développe, s'il sert à sortir de l'euro pour les Italiens suite à une émission massive et puis un conflit grave avec la Banque Centrale Européenne, à ce moment-là, on peut imaginer évidemment que l'État italien reconnaisse le pouvoir libératoire des mini-bots et à ce moment-là, ça deviendrait une véritable monnaie.
Mais ça voudrait dire une situation conflictuelle ouverte, parce que ça voudrait dire désobéir aux règles de la zone euro. Dans la zone euro, on n'a pas le droit d'imposer l'usage d'une autre monnaie.
Tout à fait. Là, on serait dans le cas d'une situation conflictuelle qui mènerait à la sortie de l'euro de l'Italie. On n'en est pas là pour l'instant, mais l'avantage du mini-bot pour le gouvernement italien, c'est qu'il permettrait de répondre à une telle situation. Il permettrait de dire, vous voulez nous étrangler, comme cela s'est passé en Grèce en 2015, pour des raisons politiques. Donc vous voulez nous faire tomber, et pour cela vous utilisez le pouvoir de la monnaie. Nous pouvons répondre avec une monnaie que nous avons mise en place.
Oui, alors il y a deux observations qu'il faut faire qui sont importantes. La première, c'est effectivement le fait d'accepter ou de dire que l'on acceptera quand ils seront créés les mini-bots pour le paiement des impôts, c'est un point tout à fait fondamental. Parce que si on regarde dans les expériences antérieures qu'il y a eu avec des monnaies parallèles, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu un certain nombre. La plus connue est évidemment celle des coupons qui avaient été émis par le gouvernement provincial de l'Alberta. C'était dans les années 30, au Canada, d'ailleurs, suite à la crise de 1929. Ces coupons n'étaient pas acceptés pour le paiement des impôts. Et c'est pour cela que cette tentative, ou disons cette expérience, a échoué. Mais à partir du moment où on pourra payer les impôts, on pourra payer ses impôts, on pourra payer ses charges sociales avec ces mini-bots, ça donne intrinsèquement de la valeur aux mini-bots. Et on voit bien là qu'une partie de la valeur de la monnaie tient justement dans sa capacité à éteindre des dettes fiscales. S'il n'y a pas derrière le mécanisme de circulation de la monnaie le mécanisme de la fiscalité par rapport à l'État, eh bien cette monnaie a beaucoup de mal à s'imposer. Donc là, on voit bien que en affirmant dès le départ, oui, les mini-bots pourront servir à payer les impôts. Le gouvernement italien, ou plus précisément Claudio Borghi, qui est le grand concepteur de ces mini-bots, il marque un point extrêmement important. Deuxième chose, c'est évidemment ce que vous avez dit, Maxime. Est-ce que le gouvernement italien, parce que c'est quand même, ça c'est une décision de gouvernement. C'est pas une décision de la Banque centrale, hein. C'est une décision du gouvernement de décider qu'une forme de monnaie ou une monnaie a justement ce qu'on appelle le pouvoir libératoire, c'est-à-dire que nul ne peut refuser cette monnaie en paiement. Là, on est face à un acte politique fort, mais qui n'est pas nécessaire pour que les mini-bots circulent. Par contre, on voit très bien quelle serait l'utilité de cet acte politique. Ça serait d'une certaine manière la dernière arme entre les mains du gouvernement italien face à l'Eurogroupe et face à la Commission de Bruxelles, qui consiste à dire si vous nous poussez dans les cordes, alors à ce moment-là, nous prendrons la décision de donner ce pouvoir libératoire absolu, en Italie en tous les cas, aux mini-bots, mais ça voudrait dire qu'immédiatement, ils retireraient ce pouvoir à l'euro. Donc on voit bien que c'est d'une manière, je dirais, un petit peu subliminale, la menace que le gouvernement italien entend faire peser, que ce soit vis-à-vis de l'Eurogroupe, qui gère la zone euro, ou que ce soit de la Commission de Bruxelles. Alors évidemment, on n'en est pas encore là. D'ailleurs, les mini-bots n'existent pas à l'heure actuelle. Il n'y a pas encore de loi les instaurant. Mais tout le monde, d'une certaine manière, se projette d'ici quelques mois, et dit, et s'il crée ces mini-bots, et commence à prendre position par rapport, je dirais, aux différentes possibilités qu'ouvre ce système.
Avant, oui, justement, de revenir sur cet aspect rapport de force, peut-être un mot, Maxime Isoulet, sur les autres types de monnaie parallèles de ce genre. Jacques Sapir en mentionnait une. Il faut se rappeler plus récemment aussi des IOU, les IOU, comme je te dois de l'argent, en Californie, après la crise de 2007-2009. La différence, les similitudes, selon vous?
Mais dans tous les cas, en fait, ce qui est vraiment fondamental, ce qui est en jeu, c'est qu'il s'agit de créances et de créances qui se mettent à circuler. Comme j'essaie de le montrer dans mes propres recherches, la créance a vraiment ce pouvoir ambivalent, si elle se met à circuler, à se transformer en monnaie, à jouer le rôle d'une monnaie. C'est quelque chose qu'on observe effectivement dans différents cas historiques. C'est quelque chose qu'on observe aussi, en fait, au Moyen-Âge, dans la circulation des lettres de change entre les différents banquiers, marchands banquiers médiévaux, justement en Italie. Et la créance a donc ce pouvoir ambivalent. Si une créance se met à être échangée entre les agents, si elle se met à circuler, elle devient elle-même une forme monétaire et elle peut ultimement se transformer en monnaie si elle acquiert ce fameux pouvoir libératoire que lui confère l'État.
Et le lien avec les monnaies locales qui existent dans différents endroits?
Alors bon, il faudrait prendre les cas individuellement. Il existe différentes formes de monnaie locale, mais bien souvent, ce ne sont pas, d'après celles que j'ai vues moi personnellement, ce ne sont pas forcément des créances qui se mettent à circuler comme dans le cas des mini-bots. C'est plutôt une forme de monnaie qui a une convertibilité automatique avec la monnaie officielle. Et dans ce cas, je dirais que c'est un peu moins intéressant. Ça a moins de potentiel de développement peut-être que des créances qui se mettent à circuler.
Justement, à propos de convertibilité, là, les maquettes de ces mini-bots qu'on a vues, ils disent euro. Donc ça veut dire que 1 euro égale un mini-bot?
Alors, il est marqué la valeur des bons du trésor en euros. Donc, ça veut dire une promesse de tant d'euros. En fait, c'est ça, un mini-boîte. C'est une promesse d'euros, fondamentalement. Mais évidemment, ça a pour conséquence que sur le mini-boîte, alors ça, d'un point de vue psychologique, c'est fondamental aussi, on a marqué une valeur en euros, qui est en fait une valeur, une promesse d'euros, mais qui a l'équivalent en euros.
Mais ce qui voudrait dire qu'il pourrait être amené à se dissocier, à changer de valeur?
Non, parce que justement, il serait accepté.
Le sous-entendu de ma question, c'est ce qu'on pourrait arriver à un taux de change, quoi.
Eh bien, il peut exister, bien sûr, un taux de change entre une telle monnaie parallèle et la monnaie sur laquelle elle est basée. Mais dans le cas du mini-bot, il ne faut pas perdre de vue un point important, c'est qu'il serait accepté en paiement des impôts pour leur valeur faciale. Mm-hmm. Autrement dit, ce serait l'équivalent d'un taux de change fixe avec l'euro. Ils auraient leur valeur faciale, point.
Tout à fait. On peut envisager l'émergence de ce taux de change, admettons qu'il y ait un processus d'internationalisation des mini-bots. Pourquoi? En fonction d'ailleurs des règles européennes, des entreprises non italiennes, de l'Union européenne, de pays de l'Union européenne, mais non italiennes, peuvent très bien soumissionner à des marchés publics italiens. Donc, l'État italien peut se trouver dans la même position vis-à-vis de ses entreprises françaises, allemandes, espagnoles, que par rapport aux entreprises italiennes, de leur devoir de l'argent. Admettons que le gouvernement italien dise à ses entreprises « on va régler notre dette en mini-botte ». Après, se pose la question, est-ce que l'entreprise paye ses impôts à l'État italien? Oui, bien entendu. La TVA, sur une opération, par exemple, une entreprise allemande ou une entreprise espagnole construit une route ou construit un pont en Italie, TVA, elle va donc payer des choses en Italie. Donc, elle aura, elle aussi, intérêt à utiliser le mini-bot. Sauf que le mini-bot aura moins d'intérêt que pour une entreprise italienne ou que pour un acteur italien, dans la mesure où, bien sûr, sur le chiffre d'affaires global de cette société, il n'y a peut-être que 10% du chiffre d'affaires qui se fait en Italie. Donc là, il n'est pas impossible que l'on voit apparaître une décote entre le mini-bot détenu par un acteur non italien mais à destination du marché italien, et le mini-bot détenu par un acteur italien. Et c'est là où se poserait évidemment le problème. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir émerger une forme de marché d'échange? C'est-à-dire qu'une entreprise non italienne, espagnole, allemande, française, que sais-je, bon, qui détient des mini-bots, qui voudrait s'en débarrasser parce qu'elle a trop de mini-bots par rapport aux impôts qu'elle a à payer, qui les propose à des agents italiens, mais les agents italiens lui disent « Ah bah oui, mais nous, on acceptera vos mini-bots que si vous nous les dépréciez un petit peu. » Donc, c'est là où va se poser en réalité la question du taux de change. Mais le fait même qu'on puisse poser cette question, ça veut dire que elle peut se poser.
Et cette question, Maxime Isoulé, c'est justement, corrigez-moi de nouveau Jacques, si j'ai mal compris, c'est justement parce que les acteurs économiques ne seront pas obligés de les accepter, ces mini-bots.
Oui, bien sûr, je pense que vous avez parfaitement résumé la situation. Après, il peut y avoir un cas différent entre l'acteur étranger qui intervient en Italie et les Italiens eux-mêmes. Donc effectivement, tout dépendra de ça. Mais le mini-bot en lui-même, de toute façon, à la base, n'est pas une monnaie en tant que telle, n'est pas une monnaie complète. Elle est une créance qui acquiert la fonction d'une monnaie. Voilà.
Une créance et, comme on disait, peut-être un levier de négociation face à Bruxelles. Vous vous souvenez quand en 2015, quand la Grèce négociait son plan d'aide avec la Troïka, FMI, BCE, Commission, eh bien ici en France, des gens comme Frédéric Lornon ou vous-même, Jacques Sapir, avaient dit que le vrai levier de négociation qui manquait à Alexis Tsipras, c'était de menacer tout bonnement de sortir de l'euro. Ça n'avait pas été envisagé par le gouvernement de Tsipras. Est-ce que ce serait ça qu'essaierait de faire l'Italie, c'est-à-dire plus que de réellement faire circuler une monnaie alternative, est-ce que ce serait faire peser une menace pour pouvoir mieux négocier par la suite?
En réalité, les deux sont tout à fait liés, puisque les Italiens ont évidemment observé très attentivement la séquence qui s'est produite en Grèce en 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé en Grèce en 2015? C'est que la Banque Centrale Européenne, à la fin d'un long processus de négociation, a progressivement mis fin à la circulation de l'euro en Grèce. Et donc les banques qui sont à la base de la circulation de cette monnaie se sont mises à fermer, et l'économie grecque a été littéralement étranglée par cette action extrêmement abusive de la Banque Centrale Européenne. Face à cela, et en plus dans l'urgence, parce que le gouvernement grec n'avait rien prévu, rappelons-nous que Yanis Varoufakis, qui était ministre des Finances, avait proposé, suite au référendum, à son président de sortir de l'euro, de mettre en place cette fameuse monnaie basée sur le IOU. Mais
c'est un peu différent. Il avait proposé l'émission d'IOU, donc d'une monnaie parallèle, dès février.
Oui.
Dès février. Quand la Banque Centrale Européenne a bloqué le refinancement des banques grecques.
Oui,
c'est de ça dont vous parlez.
Oui,
et il y a eu à ce moment-là cette espèce de pénurie d'euros en Grèce. Bon. Et après le référendum, c'est là où, le jour d'après, Varoufakis est venu devant Tsipras et lui a proposé, en fait, de réquisitionner la Banque centrale de Grèce de manière à faire émettre scripturalement suffisamment d'euros pour permettre aux banques grecques de fonctionner. Et c'est ce que Tsipras a refusé, et c'est largement la raison de la démission
de l'état d'urgence monétaire.
Voilà. Bon. On peut cependant dire que Varoufakis aurait dû revenir sur la question des IOU de manière beaucoup plus insistante dès la fin février et dès le début du mois de mars. Parce que, en réalité, toute la procédure qui allait conduire justement à cet étranglement monétaire par la Banque Centrale Européenne de la Grèce, il était déjà lisible. Si vous voulez, on pouvait voir les choses se déclencher les unes après les autres, bien sûr avec des phases de négociation. Mais, bon. Et donc, ils auraient été dans une bien meilleure situation s'ils avaient d'ores et déjà émis ces IOU. Ce qui pose par ailleurs une autre question, et c'est une question d'ailleurs dont le gouvernement italien est tellement conscient qu'il veut proposer une réforme de la Banque centrale italienne, c'est le contrôle sur la Banque centrale. La Banque centrale de Grèce ou la Banque centrale italienne.
Maxime Izoulan.
Oui, donc exactement. Et Jacques Sapir a parfaitement résumé ce qui s'était passé en Grèce. Donc les Italiens ont observé cette situation, en particulier les économistes qui entourent le gouvernement italien, et qui sont des économistes, comme on l'a dit tout à l'heure, extrêmement critiques vis-à-vis de l'euro. Et ils en ont tiré toutes les conséquences. C'est pour ça qu'ils lancent cette idée des mini-bottes de façon plus approfondie que les Grecs n'avaient pu le faire dans leur domaine. Et effectivement, il y a cette question du contrôle de la Banque Centrale Nationale, donc de la Banque d'Italie, qui se pose. Et parce qu'en cas de crise, on voit bien que c'est ça qui est en jeu en réalité. Si la Banque Centrale Européenne cesse de refinancer, de permettre aux banques de se refinancer auprès d'elle, eh bien, pour faire circuler une monnaie dans son pays, il est nécessaire de contrôler la Banque Centrale Nationale, la Banque d'Italie en l'occurrence. Donc, les Italiens se posent cette question, et effectivement, il y a une réforme de cette Banque Centrale qui a été proposée sur l'initiative du Parlement, du Sénat, pour être précis. Réforme dans laquelle Alberto Bagnai est donc extrêmement impliqué, évidemment, et qui a pour but de faire, d'aligner en fin de compte le mode de gouvernance de la Banque d'Italie sur les autres banques centrales européennes de la zone euro. Et en fait, in fine, le but c'est de faire nommer les gouverneurs de cette Banque d'Italie par le Parlement et par le gouvernement, moitié-moitié en gros. Alors, à quoi ça conduirait si ça va au bout? Et il y a des chances que ça aille au bout, parce que c'est tout à fait permis par les traités, c'est ce que montre très bien Alberto Bagnai. Ça pourrait permettre...
Qui est, je me permets, votre directeur de thèse, précisons-le, par souci de transparence.
Tout à fait.
Et qui est le président de la commission aux finances du Sénat italien.
Voilà, exactement. Et donc, si cette réforme était menée, et elle a toutes les chances d'être menée, elle conduira à faire nommer par le gouvernement actuel et par le Parlement actuel les gouverneurs de cette Banque centrale. Autrement dit, des gouverneurs qui seront favorables aux idées de ce gouvernement. Autrement dit encore, des gouverneurs qui pourraient préparer la sortie de l'euro de l'Italie.
Et donc, voilà, une action plus franche de la part des Italiens qu'en Grèce à l'époque. Pour autant, est-ce que en faisant tout ceci sans vraiment dire jusqu'où il pourrait aller, est-ce que vous n'avez pas peur que tout ça souffle sur les braises, que ça ne fasse qu'empirer une situation économique déjà difficile en Italie ?
Mais il faut distinguer la situation générale de la situation des situations d'urgence qui pourraient résulter d'un conflit avec la Banque Centrale Européenne. Mais de toute façon, le problème majeur, je pense, de l'économie italienne, et c'est d'ailleurs un problème qui ressort dans les négociations pour le budget, c'est le problème de l'investissement et de la demande. Ça, c'est fondamental. Parce que les négociations qui sont menées avec la Commission européenne sont des négociations où, en gros, les économistes de la Commission disent « Votre potentiel de croissance est très faible, donc vous ne pouvez pas avoir une politique budgétaire expansive. » Mais le problème, c'est que ce concept de potentiel de croissance, il est extrêmement contestable. En fait, il est basé sur les tendances de croissance passées, ce sont des modèles économétriques qui se basent sur les données passées. Et plus la croissance de l'Italie faiblit, plus le potentiel de croissance est évalué comme faible. Donc en fait, plus l'économie, moins l'Italie a le droit d'investir, alors que c'est ce dont elle a besoin pour s'en sortir. Donc là aussi, c'est ce que disent les Italiens. Ils disent, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin d'augmenter la demande, et ils ne peuvent pas le faire en raison en fait d'erreurs théoriques qui sont faites par les économistes pro-euro.
Tout à fait. Alors, c'est un concept qui a maintenant à peu près une vingtaine d'années. C'est le concept, évidemment, de l'écart de croissance. Hein. Voilà. C'est le GDP gap, en globiche des économistes. Bon. Et vous avez tout à fait raison. Il est en réalité l'image des taux de croissance passés. Alors, un petit peu directement, mais surtout indirectement, par l'investissement. Mais donc un gouvernement qui aurait beaucoup réduit ses investissements pour faire de l'ajustement budgétaire, ce qui est le cas de l'Italie. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que les investissements italiens en euros constants représentent environ 75% de ce qu'ils étaient au début des années 2000. Donc il y a eu une espèce d'effondrement très net de l'investissement en Italie. Eh bien évidemment, ça se retrouve dans ce fameux écart de croissance, et donc ça permet à certains économistes de dire, ben voilà, votre écart de croissance étant peu différent de votre croissance réelle, votre croissance potentielle correspondant à peu de choses près à votre croissance réelle, vous n'avez pas intérêt à faire une politique de forte relance. En réalité, il faut reprendre, je dirais, à l'envers la question et se poser vraiment le problème de savoir quel est le multiplicateur de croissance, qui est d'ailleurs calculé, parce que si les économistes font un certain type de calcul, d'autres font d'autres types de calculs, et ce qui est très drôle, ce sont très souvent des économistes du Fonds monétaire international qui regardent ce multiplicateur de croissance, et on voit qu'en Italie, le multiplicateur de croissance, il est très élevé. Il est dehors de 1,7, 1,8, autrement dit, pour 1 euro en investissement, ou 1 euro plus précisément en déficit budgétaire, on aurait 1,7 euros en production supplémentaire. Et donc, l'importance de ce multiplicateur fiscal, pour lui donner son nom technique complet, l'importance de ce multiplicateur fiscal est aujourd'hui au cœur des débats qu'il y a alors entre les économistes, hein, en sachant que, par exemple, il y a les économistes d'institutions pro-européennes qui disent non, il ne faut rien toucher, il faut au contraire rester dans une politique de rigueur, et puis d'autres qui disent, mais cette politique de rigueur, elle est complètement folle, et on a un très gros potentiel de croissance à cause de ce multiplicateur fiscal. Et de ce point de vue-là, il est intéressant de voir que le Fonds monétaire international, d'une certaine manière, vient, je ne dirais pas volontairement, il y a involontairement, à la rescousse des Italiens.
Maxime Izoulay, je vous laisse le mot de la fin.
Oui, bah, donc tout à fait. On est vraiment dans cette situation paradoxale où l'économie italienne a besoin d'investissement, a certainement des marges, parce que quelle est la crainte en fait des économistes ou du FMI ou favorables aux institutions européennes, c'est bien souvent ils disent, si vous investissez trop, vous allez avoir de l'inflation parce que votre système productif ne peut pas suivre les investissements que vous allez faire ou l'augmentation de la demande. Mais fondamentalement, c'est là où ils commettent une erreur. Parce qu'il n'y a pas de risque d'inflation en Italie. Il y a au contraire une inflation qui est très basse, qui est même potentiellement, qui peut basculer dans la déflation. C'est le grand risque actuellement. Et il y a des marges de manœuvre pour investir en Italie et pour relancer le système productif et certainement le niveau des salaires. Et ça, c'est vraiment le point clé qui certainement conduira le gouvernement italien à la rupture, à mon avis, avec les institutions européennes, parce que les institutions européennes ne veulent pas entendre ce besoin et cette difficulté.
Est-ce que, peut-être un mot également, est-ce que ces mini-bots ne serviraient pas tout simplement à contourner les marchés financiers, vu que la BCE ne prête pas aux États, mais aux banques, est-ce que là, ce n'est pas tout simplement un moyen de contourner les marchés financiers ?
Il y a le grand problème du financement des dépenses de l'État, en particulier des dépenses d'investissement de l'État. Ça, c'est un problème qui se pose de plus en plus dans tout un tas de pays, pas seulement en Italie. Hein. On a un grand débat qui émerge aux États-Unis sur la MMT, comme on appelle. C'est la grande question du financement de l'État et de ses limites. Mmh. Et bien sûr, le financement uniquement par le marché tel qu'il est pratiqué actuellement pose des problèmes fondamentaux, parce que bon, là évidemment les taux sont bas, donc ça en pose beaucoup moins en ce moment, mais ça peut conduire l'État à cesser d'investir alors que il a les possibilités institutionnelles de le faire s'il s'en donne les moyens. Donc pour répondre à votre question, les mini-bots, oui, ça peut être un des outils pour l'État pour investir.
Eh bien, merci Maxime Isoulé, merci d'être passé par chez nous aujourd'hui.
Merci à vous.
On vous retrouve sur votre blog sobrement nommé l'expropriation financière sur la plateforme Hypothèse. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir. Et
merci
à vous tous qui nous suivez en radio, en vidéo, sur la page, sur la chaîne YouTube de Spoutnik France ou en podcast pour vous abonner et ne jamais manquer un épisode. Tous les détails sur fr.spoutniknews.com à la rubrique Russe Europe Express. Une émission préparée avec Jean-Baptiste Mendès et mise en ondes et en images par Pipo Picci et Thibaut Piquet. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, faites pas vos jacques. Ciao tutti.
This is a provocation. Let them do.
No. No. No.